Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de sortir du capitalisme autour des grèves de 1936, de mai-juin 1936 et du Front Populaire. Et nous sommes toujours avec notre invité Charles Jacquier, historien et éditeur de trois ouvrages centraux dont nous parlons aujourd'hui, qui sont Front Populaire, Révolution manquée de Daniel Guérin aux éditions Agone, publié en 2013, Grève et joie pure de Simone Veil, édité aux éditions Libertalia en 2016, et Tout est possible, Les gauchistes français 1929-1945 de Jean Rabaud, qui sort aux éditions Libertalia en mai 2017. Alors on a parlé donc du coup de tout ce qui précède l'élection du Front Populaire. Bon, le résultat c'est que en gros, l'unité électorale, même si il y a des gens, par exemple, il y a des députés radicaux qui refusent de se rallier au Front Populaire et qui s'opposent au second tour au candidat le mieux placé du Front Populaire, globalement, ça donne un résultat relativement positif pour cette coalition électorale, puisque le Parti communiste fait un bond, explose, quoi, puisqu'il bénéficie de pas mal de désistements au second tour en sa faveur. Le Parti socialiste aussi explose et du coup devient le premier parti de cette coalition. Et après, bon, le seul qui s'effondre quand même, c'est le Parti radical, mais qui malgré tout fait partie de la coalition.
Oui, tout à fait. Donc il y a un résultat électoral, les élections législatives ont lieu fin avril, début mai. Donc, sont remportés, comme tu viens de le dire, au niveau électoral, en premier lieu par le Parti Socialiste, SFIO, qui a le plus grand nombre de députés dans la coalition de Front Populaire. Le PC fait un bond en avant assez impressionnant, mais quand même reste loin derrière en termes électoraux et en nombre d'élus, dans la mesure où il partait de très très bas. Et donc se pose à ce moment-là le problème de la constitution d'un gouvernement. Et légalement, il y a un temps de latence d'un mois entre la victoire aux élections et la nomination d'un nouveau cabinet ministériel, puisqu'on est dans un régime parlementaire. Et donc le chef de la majorité, de la nouvelle majorité, donc qui sera un premier ministre ou un chef de gouvernement socialiste, donc qui n'interviendra qu'un mois après le résultat des élections. Ce qui se passe, c'est que comme on est dans une phase de lutte ascendante depuis 1935, on a vu donc des grèves importantes, par exemple à Brest ou à Toulon en 1935. En 1936, il va y avoir un 1er mai aussi assez important. Et les premières grèves du mois de mai 36 sont des conséquences de la manifestation du 1er mai, puisqu'il y a des usines où des gens sont licenciés pour avoir participé à la grève du 1er mai 36. Et donc les deux premiers conflits qui éclatent, c'est aux alentours du 10-11 mai, pour une usine au Havre et pour l'autre à Toulouse, dans l'industrie aéronautique, si ma mémoire est bonne. Et donc là, les grèves sont des grèves, donc c'est les premières grèves du mois de mai 36 que l'histoire a retenues, mais c'est par contre des grèves qui sont défensives, dans la mesure où elles demandent la réintégration de personnes, de militants licenciés pour avoir participé au 1er mai 1936. Et elle se caractérise aussi par le fait que les salariés occupent leur usine, ce qui n'était pas du tout le cas, précédemment. Mais ces grèves obtiennent assez rapidement satisfaction, réintégration des licenciés, et c'est en fait le grand mouvement du mois de mai, de la fin mai, va commencer aux alentours du 24 mai dans la région parisienne, et en particulier dans les usines de la métallurgie de la région parisienne, avec là aussi le fait qu'elles sont marquées par des occupations. Donc les occupations sont quelque chose de tout à fait inédit dans le mouvement social français. Alors il y a un observateur de l'époque, donc le René Lefebvre, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui au printemps 36, si ma mémoire est bonne, dans une revue de la gauche révolutionnaire sur l'état du syndicalisme au moment de la réunification de la CGT, avait remarqué qu'il y avait dans un certain nombre de pays et de conflits sociaux, il y avait eu des occupations, mais qui étaient restées cantonnées à telle ou telle entreprise ou au pire tel ou tel secteur professionnel. Mais disons que ce mode de lutte est un peu dans l'air du temps, quoi. Et donc avant même les grèves de mai et juin en France, quelques semaines avant qu'elles éclatent, cet observateur avait noté l'apparition du phénomène. Sinon, le phénomène en question avait été massif pendant les grèves en Italie de 1920. Hein, c'est le seul exemple national à l'échelle d'un pays où les grèves avaient été marquées par des occupations d'usines, des occupations non seulement d'usines, mais aussi de propriétés, de grandes propriétés terriennes, par les salariés agricoles dans l'Italie de 1920. Mais après, on n'entend plus parler du tout de ce type de lutte qui reprend d'une manière un peu éparse dans différents pays, notamment en Pologne, en Belgique, enfin, etc., en 1936, mais qui va complètement exploser, dominer, etc., dans les grèves françaises du mois de mai et du mois de juin. Donc au niveau de l'historique, on voit qu'il y a une première phase qui démarre à partir du 24 mai dans la région parisienne, qui va aboutir le 7 juin à la signature des premiers accords Matignon. Donc on voit, comme j'ai dit, qu'on est dans une phase de vacances du pouvoir, quoi, puisque l'ancien gouvernement gère les affaires courantes en attendant le mois de délai légal que le nouveau gouvernement dirigé par Blum s'installe, donc au mois de juin. Et donc dans cette phase-là, c'est là que démarrent les grèves. Donc première grève contre des licenciements, deuxième grève dans la métallurgie et dans la région parisienne à partir du 24 mai, qui va totalement surprendre le patronat, qui s'attend absolument pas à ça, qui est totalement désarçonné, décontenancé par ce qui se passe, dans la mesure où les occupations signifient d'une manière non seulement symbolique mais pratique le fait qu'il est dépossédé de son outil de production.
Qui ne peut pas employer des jeunes non plus.
Et qui ne peut pas non plus employer des jeunes, que la grève se déroule à l'intérieur même de l'entreprise, qu'il n'y a pas de prétexte, que le gouvernement, évidemment, qui vient d'être élu, qui n'est même pas encore au pouvoir, après sa victoire électorale, ne peut décemment pas envoyer les forces de répression contre les grévistes. Ce que les grévistes ont très bien compris, quoi, hein, d'une manière plus ou moins intuitive, mais ils savent très bien qu'ils considèrent que la victoire du Front Populaire est leur victoire, et que donc ce gouvernement-là ne va pas leur envoyer immédiatement. On ne va pas leur envoyer la troupe. On verra ensuite que dans les mois suivants, ça sera le cas. Mais à ce moment-là, il y a une espèce de, pour employer un terme un peu anachronique, d'état de grâce qui fait que la chose n'est pas du tout, à l'ordre du jour. Et donc, le patronat ne trouve qu'une solution, c'est d'aller trouver le gouvernement en lui disant il faut absolument que qu'on sorte le plus rapidement possible de cette situation. Et c'est dans ce but-là qu'il va y avoir ce qu'on appelle les accords Matignon, qui est en gros la reconnaissance par le patronat qu'il est totalement dépassé par les événements, et que pour éviter que le feu à la plaine s'accroisse, s'amplifie et prenne une dimension incontrôlable, est prêt à lâcher du lest et à accorder tout ce qu'il avait refusé pendant les années précédentes. Ça, c'est en gros le principe de ces accords Matignon. Les grévistes en même temps ne l'entendent pas de cette oreille, puisque il y a un certain nombre de boîtes qui reprennent dans la région parisienne après le 7, mais qui vont se remettre en grève ensuite, en disant finalement il n'y a pas de raison que... Bon, là, on nous a fait des promesses, mais bon, pour l'instant, on n'a rien de concret, etc. Peut-être qu'il faut encore aller plus loin, etc. Donc, se remettre en grève. Et ensuite, la grève touche les grandes régions industrielles françaises, à peu près avec 15 jours de décalage. Et donc, en gros, en province, comme on dit, de manière assez vilaine, les grèves commencent à partir des accords Matignon, ou guère après les accords Matignon, dans toutes les grandes régions industrielles françaises, donc le Nord, la région de Lyon, la région de Marseille, la région stéphanoise, Grenoble, enfin, etc., etc. Avec le même mode opératoire, c'est-à-dire des grèves avec occupation. Ces grèves avec occupation aussi, elles se caractérisent par quelque chose de nouveau, c'est qu'elles touchent de nouvelles couches salariées. Donc on peut dire que le noyau dur de ces grèves, c'est la région parisienne, et en particulier la métallurgie, les grandes usines métallurgiques de la région parisienne, qui constituent en gros le noyau dur de la classe ouvrière ou du salariat de l'époque. Mais elles ne vont pas du tout se limiter à ce secteur, puisque la grève va être nationale. J'ai oublié par exemple de citer Le Havre, Rouen, etc., Nantes, Saint-Nazaire. La grève prend un caractère national et aussi touche des catégories de salariés qui auparavant n'avaient jamais fait grève, quoi. Donc c'est par exemple les employés des grands magasins parisiens qui vont se mettre en grève et qui seront les derniers de la région parisienne à reprendre le travail, dans la mesure où la CGT a compris que c'était un enjeu national et que donc il fallait absolument que les salariés des grands magasins obtiennent une victoire éclatante et sans conteste, et mettre un peu le patronat sur les rotules. Mais ça touche aussi des secteurs dans la banque, les assurances, enfin ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'employés de bureau, de secteurs de ce type-là.
Et du coup, dans ta chronologie, ça change un petit peu de la manière dont c'est présenté par exemple dans les manuels scolaires, parce que dans les manuels scolaires, on a globalement l'impression que les accords Matignon résolvent tout, et que, les ouvriers se mettent en grève pour demander les congés payés, la semaine de 40 heures, le bon gouvernement Blum arrive, il lui accorde, avec les accords Matignon, et fin de l'épisode. Alors que là, du coup, bon, la chronologie qui est plus fine que tu proposes, elle est un peu différente, quoi. C'est pas... aussi simple que ça, quoi.
Ah non, c'est... sur la chronologie en question, je m'appuie sur un livre dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qu'il faut mentionner, parce que c'est quand même un peu un classique sur la question. C'est un livre qui est très 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 ancien, puisqu'il a été publié dans les années 50, mais qu'il a été depuis régulièrement réédité, qui est de Danos et Jacques Danos et Marcel Gibelin, et qui s'appelle juin 36 et qui est une histoire des grèves de une histoire des grèves de 36, assez fine, assez pointue, et qui se poursuit jusqu'à l'échec de la grève du 30 novembre 38, dont on parlera, je pense tout à l'heure. Et justement, Danos et Gibelin expliquent bien ce tempo différencié et le fait que les grèves ne sont absolument pas, ne s'arrêtent pas du tout au moment des accords Matignon. Puisque les accords Matignon, c'est une sorte de pré-accord. C'est-à-dire, on se met d'accord sur un principe, mais la chose n'est pas du tout actée dans les faits. Dans les faits, ça va être le gouvernement Blum qui va passer la vitesse supérieure pour essayer de faire voter les lois sur les congés payés, les 40 heures, enfin, et tout ce qu'on... Les délégués syndicaux, etc. Enfin, tout ce qu'on considère comme les acquis sociaux de 36, les accords ou le pré-accord Matignon en adopte le principe, mais il sera adopté dans les faits beaucoup plus tard par la voie parlementaire. Peut-être 4 semaines plus tard. Et la grève donc n'a pas le même tempo d'une manière très claire entre la région parisienne et le reste de la France, d'une part, hein, puisque j'ai dit à peu près 15 jours de décalage entre les événements parisiens et les événements en province. Donc les événements en province, par exemple, commencent très souvent après le premier accord Matignon du 7 juin. Et il y a un pic des grèves qui intervient aux alentours du 11 juin. Mais ensuite, suivant les secteurs professionnels, les régions, etc., il va y avoir des grèves jusqu'au mois de juillet. Donc la phase haute, démarre aux alentours du 24 juin. Va jusque, pour la région parisienne, jusqu'à la mi-juin, et pour la province, démarre aux alentours du 7 juin, 8 juin, et il y aura encore des grèves jusqu'au mois de juillet, quoi, hein. Il y aura encore des grèves début juillet qui se dérouleront dans telle ou telle entreprise, souvent parce que le patronat de la boîte en question refuse de suivre le mouvement, quoi. C'est souvent des grèves de ce type-là qui se passent dans des provinces où on considère que on n'a pas obtenu les avantages qui ont été obtenus dans tel ou tel secteur de la région parisienne, et donc les gens se mettent en grève à ce moment-là. Donc la chronologie, elle est un petit peu plus compliquée que celle que tu as indiquée, et elle montre bien que c'est pas du tout le résultat automatique du programme du Front populaire, mais c'est à la demande du patronat que le gouvernement, pour essayer de reprendre la main, va accorder ce qu'il accorde au moment des accords, de l'accord de Matignon. Je veux dire, c'est quelque chose, y compris que Blum a reconnu pendant le procès d'Orium, en citant les gens qui l'ont sollicité, etc., etc. Parce qu'y compris la droite, le patronat, etc., pour relégitimer le gouvernement de Front Populaire, avait tendance à faire croire que c'était lui qui avait accordé ça. Alors qu'en fait, c'est le patronat qui est allé tirer la veste de Blum en lui disant « il faut absolument que vous nous sortiez de ce merdier, si j'ose dire, et on va se réunir sous votre égide avec la CGT ». Et on va accorder ça, 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 ça et ça. le processus est exactement de cette manière-là. Ça aussi, c'est Gibelin, enfin Danos et Gibelin qui l'explique d'une manière très très claire et très très argumentée.
Et peut-être que du coup, ça justifie un petit peu ce que tu dis. Le titre du bouquin de Daniel Guérin, Front populaire, révolution manquée. Bon, pas que le Front populaire ait été révolutionnaire en soi, puisque Blum explique bien que on n'est pas dans les conditions de la prise de pouvoir et du socialisme, mais qu'on est uniquement dans un peu la gestion bourgeoise de l'État, et donc il faut respecter la légalité et tout ça. C'est toute une distinction dont Guérin parle entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et ça justifie du coup ce type de révolution manquée, non pas dans le sens où il y avait les prolétaires étaient prêts à faire la révolution, qu'ils avaient une volonté révolutionnaire, une conscience révolutionnaire, etc., etc. Mais peut-être plus dans le sens où il y avait un processus qui aurait pu aboutir, on ne sait pas où, puisque il a été coupé net par le fait que le patronat a lâché massivement du lest. Donc finalement, le patronat a préféré être réformiste plutôt que le prolétariat ne devienne révolutionnaire d'une certaine façon, quoi.
Oui, non, mais les acquis, ce qu'il faut vraiment rappeler et même insister un peu lourdement, je pense, c'est de renverser complètement la perspective. Je veux dire, les conquêtes sociales de 36 ne sont pas dans le programme du Front populaire. Ne sont pas octroyés dans sa grande bienveillance par le gouvernement du Front populaire, mais c'est le patronat, donc l'organisation patronale qui s'appelait la CGPF, je crois, enfin la Confédération générale du patronat français, qui était le MEDEF des années 30, qui sollicite Blum en lui disant mais il faut absolument que rencontre des syndicats pour arrêter, parce que là ce qui est en train de se passer, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, et donc on va lâcher un certain nombre d'avantages. Et Blum, de son côté, le seul bon, effectivement il va les accorder, mais on peut lui créditer le fait qu'il va les accorder très rapidement en accélérant les processus législatifs, parlementaires, etc. Mais parce que le patronat lui demande d'éteindre l'incendie. Sur la décrue de la grève, mais je pense qu'on va y revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire intéressantes, il me semble.
Oui, je voulais juste sur la CGT, dans un livre qui s'appelle « Juin 36 » aussi, ils expliquent bien que les délégués de la CGT, pendant les espèces de petites réunions avec le patronat et avec Blum, les militants de la CGT disaient au patronat « si on n'arrive pas à contrôler la classe ouvrière, il aurait fallu que vous nous donniez, que vous fassiez confiance aux syndicats ». Et pas que vous mettiez des bâtons dans les roues systématiquement depuis les années 20 aux syndicalistes, aux militants syndicalistes. Ce qui fait qu'il va y avoir une... 36, ça va être un peu la fin presque définitive jusqu'à... au moins pendant une période de 40 ou de 50 ans entre le syndicalisme et le patronat, puisque là, le patronat va comprendre que... en fait, le syndicalisme, c'est quand même bien utile pour éteindre... le syndicalisme réformiste de la CGT, c'est quand même bien utile pour éteindre l'incendie quand il y en a besoin. Et ce qui fait que 36 va, le patronat va aussi donner quand même beaucoup d'avantages, pas mal d'avantages, disons, aux syndicats, enfin, en tout cas par rapport à la situation d'avant où le syndicalisme était, n'avait pas lieu d'être dans les usines. Là, on va être, le patronat va, jusqu'à une date assez récente, considérer que le syndicalisme, c'est bien pratique. Ça a permis en 36 d'éteindre l'incendie. Et puis en 68, bon, ça, on va pas en parler dans cette émission, mais ça va jouer aussi un rôle pour éteindre l'incendie.
C'est un autre sujet, c'est une autre période. Mais pour rebondir sur la politique de la CGT, je voudrais, à partir du livre de Danos et Gibelin, donner une citation de ce bouquin qui est tirée de... d'un livre de mémoire d'André Delmas, qui était dirigeant du syndicat national des instituteurs de la CGT. Et voilà ce qu'il dit à ce moment-là. Il était clair que partout les militants étaient dans l'impossibilité de diriger les grèves, d'en contrôler l'extension, d'en prévoir les suites. Les communistes eux-mêmes, qui voulaient paraître plus rassurés que les autres, ne cachaient pas, dans les conversations de militants à militants, que la revendication ouvrière se moquait de tous les mots d'ordre et déclarait que le plus sage était de se laisser emporter par le courant populaire pour donner l'impression qu'on les dirigeait. Il est fort exact que les chefs suivaient les troupes sans savoir où cette aventure les mènerait. Et d'autre part, toujours dans le même livre, Danos et Giblin cite un député socialiste marseillais, adjoint au maire, qui s'appelait Vidal, qui va multiplier les arbitrages avec les grévistes pour les faire reprendre. Et voilà ce que celui-ci avait déclaré dans une séance de la Chambre des députés le 26 juin 1936. Chaque fois qu'on négocie la fin d'une grève, il en est 10 autres, ou la grève même que l'on a arrêtée recommence quelques jours après. Voilà. Donc là, je pense que c'est vraiment ce type de choses qui caractérise les grèves de 1936, c'est-à-dire leur caractère
autonome,
spontané, et généralisé. Avec un autre point aussi sur lequel il faut insister, c'est que jamais la CGT, à ce moment-là, n'appelle à une généralisation de la grève au niveau national, et que quand elle y appelle dans tel ou tel secteur géographique ou dans tel ou tel secteur professionnel, c'est uniquement une fois que les gens sont déjà en grève, dans le but simplement de faire semblant, comme il était dit dans la citation précédente, là, pour donner l'impression qu'on la dirigeait, quoi. Ou pour essayer de reprendre la main, ou de faire semblant qu'on reprenait la main en disant, voilà, mettez-vous en grève, alors que tout le monde y était déjà. C'était une manière de faire semblant de reprendre la main, alors qu'on n'était pas du tout à l'initiative de ce qui se passait. Alors les choses sont compliquées, je pense, parce que ça empêche pas les caractéristiques que je suis en train d'indiquer, que la CGT a la confiance massive des salariés et que ça va se traduire par une explosion de ses effectifs qui est assez ahurissante, puisque d'après les chiffres que donnent Danos et Giblin, et Guérin aussi insiste bien à partir de son expérience au comité de l'union locale de la CGT des Lilas dans la région parisienne, dans la banlieue parisienne. La CGT réunifiée donc au congrès de Toulouse de mars 1936 est donnée pour 1 million d'adhérents. Je pense même qu'il y en avait un peu moins, mais on peut dire voilà, que ça tourne autour de les deux CGT réunifiées tournent autour de 800 000, 1 million d'adhérents. Fin juin 1936, il y en a 2,5 millions, donc 6 à 8 semaines plus tard, on est passé à 2,5 millions d'adhérents pour la CGT, et ça ira jusqu'à 5 millions l'année suivante, en 1935, avec ensuite une rapide décrue à partir de 1938, notamment l'échec de la grève générale de 1938 dont on va parler. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants, quoi. Les salariés, les travailleurs, les ouvriers, etc., ont confiance dans la CGT, y adhèrent massivement, suivent les militants syndicaux quand ils sont présents dans telle ou telle entreprise. Là aussi, Guérin raconte ça très très bien dans Front Populaire Révolution Manquée, qu'on fait appel à lui parce qu'on sait qu'il a une expérience, etc. Donc on fait appel à lui dans plein d'usines de la banlieue parisienne, de la commune en question. Dans la mesure où il est le représentant de la CGT, où il est connu et reconnu comme le représentant de la CGT dans le secteur, mais en même temps c'est les gens eux-mêmes qui font grève et qui vont le chercher après pour la conduite de la grève, pour les négociations, etc., etc. Donc il y a ce double phénomène qui est extrêmement original, extrêmement intéressant. à la fois d'un mouvement social qui est en très grande partie autonome, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Chaque fois qu'on négocie la fin d'une grève, il en est 10 autres, où la grève même que l'on a arrêtée recommence quelques jours après, hein, ce que déclarait ce socialiste, cet adjoint au maire socialiste marseillais. Donc cet élément-là, et en même temps le fait qu'on adhère massivement, à la CGT. Je pense que c'est les deux caractéristiques qu'il faut souligner, après celle du fait que les conquêtes sociales ne sont pas octroyées par le gouvernement, mais que c'est le patronat qui demande, en gros, ce qu'il avait refusé pendant les 15 années précédentes, ce qu'il avait obstinément refusé en disant que c'était totalement impossible. Là, il découvre que ça va l'être, parce qu'il faut absolument mettre fin à un mouvement qui apparaît comme à la fois dangereux et difficilement contrôlable.
Donc maintenant, on peut du coup peut-être parler un petit peu du livre de Simone Veil, Grève et joie pure. Et du coup, je vais lire quelques passages, surtout du chapitre que j'ai préféré personnellement, qui est ta très intéressante préface, l'article dans La Révolution prolétarienne, qui s'appelle « La vie et la grève des ouvriers métallos ». Et je vais lire certains passages aussi parce que ça fait écho à pas mal d'émissions qu'on a faites de critique du travail au sens capitaliste, parce qu'avec son récit à la première personne de ce que c'est que la condition ouvrière de cette époque, on retrouve quand même pas mal de thèmes centraux de... Voilà. Alors, par exemple... Pointer, s'habiller, sortir de l'usine, le corps vidé de toute énergie vitale, l'esprit vide de pensée, le cœur submergé de dégoût, de rage muette, et par-dessus tout cela, d'un sentiment d'impuissance et de soumission. Car le seul espoir pour le lendemain, c'est qu'on veuille bien me laisser passer encore une pareille journée. Quant aux jours qui suivront, c'est trop loin, l'imagination se refuse à parcourir un si grand nombre de minutes mornes. Donc là, quand même, on a une critique... travail qui est quand même assez puissante. Je continue. Car quand on ne peut plus produire assez vite, on n'a plus droit à vivre. Ne voit-on pas les hommes de 40 ans refusés partout, à tous les bureaux d'embauche, quel que soit leur certificat? À 40 ans, on est compté comme un incapable. Malheur aux incapables. Là, ça renvoie aussi à ce que disait Marx sur le fait que quand le travailleur ne peut plus vendre sa force de travail, bon, dans la société capitaliste, il devient complètement superflu. Et bon, ça fait aussi écho à la situation actuelle de chômage massif. Je continue. On se plaint d'un travail trop dur ou d'une cadence impossible à suivre. On s'entend brutalement rappeler qu'on occupe une place que des centaines de chômeurs prendraient volontiers. Donc là, ça fait aussi écho un peu, malheureusement, à la situation actuelle. Alors, une autre... vraiment quelque chose de vraiment très fort. Il faut serrer les dents, tenir, comme un nageur sur l'eau, seulement avec la perspective de nager toujours jusqu'à la mort. Pas de barque par laquelle on puisse être recueilli. Si on s'enfonce lentement, si on coule, personne au monde ne s'en apercevra seulement. Qu'est-ce qu'on est? Une unité dans les effectifs du travail, on ne compte pas, à peine si on existe. Là, on a quand même un condensé un petit peu de ce que le travail dans la société capitaliste. Je continue. On est une chose livrée à la volonté d'autrui. Comme ce n'est pas naturel à un homme de devenir une chose, et comme il n'y a pas de contraintes tangibles, pas de fouet, pas de chaîne, il faut se plier soi-même à cette passivité. Comme on aimerait pouvoir laisser son âme dans la case où on met le carton de pointage et la reprendre à la sortie, mais on ne peut pas. Son âme, on l'emporte à l'atelier, il faut tout le temps la faire taire. Donc là, ça renvoie à une émission qu'on avait faite sur la question de l'aliénation chez Marx dans les manuscrits 1844. Parce que là, on voit que la notion d'aliénation, dont une des traductions, enfin, un des mots originels allemands signifie se déposséder de soi, et une autre encore, devenir étranger à soi. En fait, dans le travail, on ne devient pas complètement étranger à soi, c'est-à-dire qu'à la fois on n'est plus maître de ses gestes, on doit effectuer, par exemple si on est caissière ou caissier, on doit encaisser, on est une fonction d'encaissage, Mais d'un autre, mais on ne peut pas non plus juste être une machine et finalement arrêter de penser, arrêter de sentir. On est malgré tout, on est toujours là, et c'est de là aussi que vient la souffrance. Pas uniquement du fait de, pendant 8 heures, de ne pas vivre, mais justement de souffrir aussi pendant 8 heures. Ça, c'est important de le dire. Je continue. Ça suffit pour montrer ce qu'est une vie pareille, et que si on s'y soumet, c'est, comme dit Homère au sujet des esclaves, là elle cite Homère, bien malgré soi, sous la pression d'une dure nécessité. Donc là, je pense que dans ce petit passage, Simone Veil réfute de manière forte la fameuse thèse de la servitude volontaire. Elle montre bien que, bon, en l'occurrence, là, c'est une contrainte, et que les ouvriers ne vont pas s'asservir volontairement dans les usines, mais qu'ils y sont contraints, ne serait-ce que matériellement. Voilà, après, il y a aussi des très beaux passages sur la grève. Je vais juste en lire un. Dès qu'on a senti la pression s'affaiblir, immédiatement les souffrances, les humiliations, les rancœurs, les amertumes silencieusement amassées pendant des années ont constitué une force suffisante pour desserrer l'étreinte. C'est toute l'histoire de la grève, il n'y a rien d'autre. Dès que le joug s'est desserré, on a relevé la tête, un point c'est tout. Voilà, donc on a vraiment une appréciation vraiment très intéressante de la grève. Et je vais finir sur le dernier passage qui donne lieu au titre de l'ouvrage qui a été choisi pour ce recueil d'articles de Simone Veil. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes, ou des femmes, c'était pas l'écriture inclusive à l'époque, pendant quelques jours. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Là, vraiment, on a un très beau passage sur la grève. Et ensuite, pour finir un peu cette espèce de recension orale que j'ai pu faire du livre, il y a un passage très intéressant, très amusant à la page 41 qui malheureusement est toujours un peu d'actualité, où elle critique un peu l'étatisme des Français et aussi de la classe ouvrière. On se dit que si certains patrons ferment leurs usines, l'État les reprendra. On ne se demande pas un instant s'il pourra les faire fonctionner aux conditions désirées. Pour tout Français, l'État est une source de richesse inépuisable. Donc là, on est un peu dans l'actualité, avec notamment le programme de Mélenchon qui traduit bien cette espèce de renouveau perpétuel de l'État, de l'idéal, de l'État-providence. Et ensuite, je vais te redonner la parole parce que ensuite elle aborde des questions qui ont beaucoup plus trait à la stratégie. Et j'avoue que, comme je te le disais hors émission, j'étais un peu surpris d'une espèce de prudence, alors que, bon, quand on lit Guérin, on a l'impression que, voilà, quand on est dans ce mouvement, tout est possible, comme l'article de Marcel Pivert et qui a donné le nom à l'ouvrage qui sort aux éditions Libertalia, tout est possible. On est au début d'un processus révolutionaire, et Simone Veil, elle est déjà prudente, nuancée, pas encore pessimiste. Elle sera pessimiste plus tard seulement, après la Révolution espagnole. Là, elle est simplement prudente. Et du coup, ce qui fait qu'on a un peu face à face, donc d'une part Simone Veil, d'autre part, et aussi Pierre Monat, qui édite au moins un de ses articles. Et d'autre part, Trotsky, Marceau Pivert, et Daniel Guérin, donc ils sont un peu, voilà, alors Pivert il n'est pas vraiment trotskiste, mais enfin bon, disons, on va dire l'aile maximaliste. Donc il y a d'un côté une aile un peu maximaliste révolutionnaire qui dit la révolution française a commencé, c'est ça le titre de l'article de Trotsky en mai juin 1936, et d'autre part une ligne beaucoup plus prudente où c'est simplement, bon, la classe ouvrière reprend des forces après avoir été écrasée depuis 15 ans, depuis l'échec des grèves de 1920. Donc est-ce que tu pourrais du coup préciser un petit peu ces deux lectures des grèves de 36, mais qui aussi renvoient à deux visions stratégiques?
Oui, tout à fait. Déjà au préalable, il me semble qu'il faut dire qu'on part sur un débat qui traverse ce qu'on pourrait appeler les minorités révolutionnaires anti-staliniennes de l'époque. Donc c'est pas du tout des gens qui sont ni représentés ni étudiés, etc. Enfin, je veux dire, c'est des gens, par exemple, qui sont totalement ignorés par l'histoire académique, parce qu'on entend dans l'opinion publique des journalistes, etc., qui peuvent faire des articles sur 36, etc. Ce qu'on entend sur 36, c'est voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Février 34, les grandes manifestations, les grèves dans la joie, et le gouvernement Blum qui accorde dans son infinie mansuétude les 40 heures, les congés payés, etc., etc. Ces gens-là s'inscrivent dans une histoire minoritaire qui est totalement différente et qui a... à mon avis, l'immense intérêt de donner un autre point de vue sur cette période et de complètement changer l'angle de vue qu'on a sur l'histoire de l'entre-deux-guerres. Voilà, ça c'est la première, enfin la remarque préalable. Donc c'est un débat qui est dans le même milieu, hein, si on peut dire. Donc de ces minorités qui sont caractérisées à la fois par leur compréhension ou leur tentative de compréhension de ce que représente l'Union soviétique, qui pour eux est au mieux un État ouvrier dégénéré, au pire un État quasiment contre-révolutionnaire, alors que manière quasiment générale, l'URSS est considérée comme un pays, à l'époque, y compris à droite, hein, comme un pays socialiste, progressiste, qui est en train de réussir son industrialisation, avec lequel il va falloir s'allier pour combattre le nazisme, etc., etc., quoi. Donc ces gens-là, ils sont totalement en dehors de ça. Ils ont aussi compris les premiers le danger que constituait le nazisme et la phase contre-révolutionnaire que signifiait le nazisme. J'ai tout à l'heure rappelé la citation de Simone Weil, mais je veux dire, elle est tellement bonne qu'il faut que je la rappelle, quoi. C'est-à-dire que la deuxième grande défaite du mouvement ouvrier. Après août 14, c'est janvier 33, hein, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir, qui marque, d'après Simone Weil, en gros, la fin du mouvement ouvrier organisé tel qu'on l'a connu depuis le 19e siècle, quoi. Et je pense que ça explique en partie le pessimisme dont tu parlais tout à l'heure, et un pessimisme d'ailleurs qui n'est pas postérieur à l'Espagne, mais qui est antérieure, qui date en gros de 1934, quoi.
Ah ouais. J'avais été trop gentil.
Chez Simone Weil. Donc en 36, ces gens-là se retrouvent devant un phénomène qu'ils vont devoir analyser, qu'ils vont devoir penser, qui est ce phénomène inédit des grèves massives avec occupation qui ont les caractéristiques que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, avec à la fois l'explosion d'un syndicalisme de masse et une confiance de la très grande majorité du salariat au syndicalisme, et en même temps le fait que malgré ça, on mène pendant les grèves de mai-juin, on mène les grèves presque d'une manière autonome, quoi. En décidant quand est-ce qu'on fait grève, quand est-ce qu'on reprend, et que même si on a un militant syndical ou politique qui a fait reprendre, ben, si on n'est pas totalement content, ou si on estime qu'on n'a pas mené les choses assez loin, on va recommencer à revenir en grève. Et c'est les deux citations que j'ai rappelées tout à l'heure. Voilà, on est dans ce contexte-là. Donc, comme tu l'as dit, il y a deux grandes de grandes analyses. La première, c'est celle de Trotsky, qui, dans un article qui paraît dans un numéro de l'organe trotskiste officiel français, hein, du Parti ouvrier trotskiste de l'époque, qui venait de se réunifier, Trotsky publie un article dont le titre résume d'une manière tout à fait limpide le propos, c'est « La Révolution française a commencé ». Je veux dire, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure, c'est comme tu dis, un peu maximaliste, peut-être, mais voilà. Marceau Pivert, c'est un peu autre chose, mais il est un peu sur cette ligne-là. Lui, il écrit, donc Marceau Pivert, c'est le chef, enfin c'est le chef, c'est la personnalité la plus connue, ou le dirigeant d'une tendance de la SFIO qui s'appelle la gauche révolutionnaire, qui a été créée l'année précédente, hein, c'est une tendance qui est toute nouvelle, qui est créée en octobre 1935, par un certain nombre de militants qui ont rejoint la SFIO. Donc soit c'est des socialistes classiques, enfin Pivert est un socialiste classique, qui a été adhérent à la SFIO depuis le congrès de Tours, etc. Mais qui est sur une ligne très à gauche. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui rejoignent la gauche révolutionnaire, qui sont souvent d'anciens communistes, hein, d'anciens oppositionnels communistes, qui constatent la marginalisation et l'inefficacité des groupes auxquels ils ont participé, et qui se disent il y a un parti ouvrier dans lequel il y a le droit de tendance, dans lequel il y a une relative démocratie interne, et donc on va essayer de l'investir et de lui donner une ligne beaucoup plus à gauche, quoi. Voilà. Donc beaucoup de gens qui sont passés par des groupes communistes d'opposition, je pense à un autre dirigeant de la gauche révolutionnaire qui s'appelait Michel Collinet aussi, qui était un ami de Daniel Guérin. Daniel Guérin, lui, n'est pas passé par ces groupes-là, il a une sensibilité très, très syndicaliste révolutionnaire, quoi, hein. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait participé à l'expérience du comité des 22, qu'il avait collaboré au Cri du Peuple, qui était l'organe de ce comité, qu'il avait collaboré à la Révolution prolétarienne de Pierre Monnat. Voilà, c'est il se situe dans les franges du syndicalisme révolutionnaire de l'époque, mais en même temps, il est un peu imprégné par l'esprit du temps et par la forme parti. Il considère qu'il faut s'organiser de manière politique, et donc voilà, il va faire le choix d'adhérer à la gauche révolutionnaire, et on sera un des dirigeants, en particulier le dirigeant le plus à gauche, hein, le responsable de sa commission anticolonialiste, jusqu'au départ de la gauche révolutionnaire, enfin à l'exclusion de la gauche révolutionnaire au congrès de Royan de la SFIO en 1938. Et donc là, il va y avoir une nouvelle organisation qui va s'appeler le PSOP, Parti Socialiste Ouvrier Paysan, qui aura une vie très très brève, puisqu'il va se fracasser. Il va être fondé donc à l'été 38, et il va se fracasser sur la Deuxième Guerre mondiale l'année suivante. Donc Pivert, pour revenir à lui, considère que tout est possible. C'est le titre de son article dans le Populaire, le quotidien de la SFIO. Et donc pour lui, il y a des possibilités énormes. Enfin, il ne parle pas de révolution de manière aussi explicite que Trotsky, mais si le mot y est pas, en tout cas l'idée est plus ou moins. Sous-jacente dans son propos. D'un autre côté, il y a un certain nombre de gens, en particulier Simone Veil ou Pierre Monnat, qui considèrent que c'est plutôt une étape d'une... Enfin, je pense que c'est des gens qui ont une vision des choses qui est beaucoup plus à long terme. Et donc qui ont une vision beaucoup plus large des choses et qui relativise un petit peu ce qui se passe. Monat est un vieux syndicaliste, donc syndicaliste depuis la fin du 19e ou le début du 20e. Et donc il a vécu toute la période, tout jeune militant syndicaliste, il a vécu la période héroïque de la CGT autour de la propagande pour la grève générale, l'organisation de la grève générale du 1er mai 36, les grèves de 1908-1909, qui ont été violemment réprimées par Clémenceau, Villeneuve-Saint-Georges, Draveil-Essonne, etc. Donc il a connu la période héroïque du syndicalisme d'avant 14. Il a connu la difficile période de la guerre comme minoritaire opposé à l'Union sacrée. Et l'échec de ce qu'on pourrait appeler le court moment révolutionnaire qui suit la fin de la guerre de 14 et qui va se terminer avec l'échec des grèves, en particulier de la grève des cheminots de mai 1920, quoi, qui va être le dernier grand mouvement social de l'époque, au niveau national.
Avant
36. Avant 36, quoi. Et donc, quand 36 a lieu, Monat considère que 36 est un truc inespéré, magnifique, qui arrive une fois par tous les 20 ans, quoi, ou une fois par génération, mais ne considère pas ça comme une situation pré-révolutionnaire, on va dire, contrairement à ce que dit Trotsky, et c'est exactement la même chose pour Simone Veil. Et je pense que si on remet les choses dans un contexte plus général, c'est pas totalement faux, c'est pas totalement idiot, dans la mesure où ce qu'on voit, si on élargit la focale sur la période, c'est que l'entre-deux-guerres est vraiment une période de contre-révolution généralisée.
Enfin, après l'échec des années 1919-1920, là, effectivement, ça devient complètement révolutionnaire.
Oui, 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 non. L'entre-deux-guerres, oui. La période 1920-1939, quoi. C'est une période qui est vraiment marquée par une contre-révolution généralisée dans à peu près tous les pays. Et qu'on oublie un facteur essentiel, c'est que la guerre de 14 a décimé toute une génération, quoi. Et que donc, la guerre de 14 en France, c'est à peu près 1 million de morts. Hein, et c'est quelque chose que dit quelqu'un aussi comme Victor Serge, par exemple, dont on n'a pas encore parlé. Mais Victor Serge analyse aussi un peu de la même manière le mouvement de 36, en disant que c'est une manière de commencer à récupérer les forces qui ont été les forces humaines, quoi, les forces vitales, les militants en âge de militer, avec l'envie de militer, avec des perspectives positives peut-être devant eux. Que ces grèves-là, c'est ça que ça marque. Plus qu'une situation qui est une situation véritablement révolutionnaire. Bon, alors, en gros, les deux thèses en présence, si je devais donner mon point de vue personnel, je dirais que je me situe un petit peu entre les deux, avec peut-être une petite préférence pour Simone Veil et Pierre Monat, parce qu'effectivement, la situation est vraiment une situation contre-révolutionnaire, sur la longue durée, quoi, hein, sur la totalité de l'entre-deux-guerres, puisqu'on voit que c'est le fascisme qui domine en Italie dès Mussolini, c'est l'Allemagne nazie, c'est un certain nombre de régimes autoritaires en Europe centrale, etc., etc., etc. Donc, ça va être l'échec aussi en Espagne, en 1936. Donc on est vraiment dans une période de double recul du mouvement ouvrier. Hein. C'est le recul d'août 14 dont parle Simone Veil, et c'est le recul de du fascisme et du nazisme. Après, c'est pas totalement l'analyse en termes de situation pré-révolutionnaire. Malgré tout, et c'est tout l'intérêt de la lecture du livre de Guérin, elle n'est pas totalement à évacuer non plus, parce que ce qu'on voit dans la nature même du mouvement de 36, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de jamais vu, et c'est quelque chose d'extrêmement important et qui va marquer le mouvement social en France sur la très longue période, quoi. Donc, c'est pas qu'un petit phénomène sympathique, etc. C'est quelque chose qui marque durablement le syndicalisme, le mouvement ouvrier français, et une grande partie des critiques que fait Guérin, par exemple, à la direction de la SFIO, à la CGT ou au Front Populaire, puisque Guérin parle du Front Populaire numéro 1, qui est le Front Populaire institutionnel, quoi, électoral, etc., et le Front Populaire numéro 2, dont il est partisan, lui, qui serait un Front Populaire de combat, véritablement antifasciste, appuyant les grévistes, essayant d'aller le plus loin possible dans la voie d'une transformation sociale radicale. Bon, ça, c'est le Front Populaire numéro 2 dont est partisan Guérin. Et donc, en tant que partisan de ce Front Populaire numéro 2, il est extrêmement critique sur le premier. Donc, sa lecture demeure indispensable. Mais voilà, c'est pas. Il y a un certain nombre de critiques qu'on pourrait lui faire à ce point de vue-là.
Oui, et d'ailleurs, quand tu parles de ces deux fronts populaires, ça fait penser qu'il y a presque aussi deux antifascismes, c'est-à-dire un peu un antifascisme institutionnel, très consensuel, où on s'allie avec la bourgeoisie, avec les partis de centre, avec l'Angleterre et tout ça, et qui est un peu l'antifascisme impulsé par Staline. Et d'un autre côté, un antifascisme révolutionnaire, c'est-à-dire qui considère que la révolution sociale, je pense que Daniel Guérin le dit à peu près texto dans le livre, que la révolution, enfin c'est un petit peu ce que disent aussi pas mal d'anarchistes en Espagne, c'est-à-dire que c'est la révolution sociale qui est la meilleure stratégie préventive contre le fascisme.
Oui, oui, non, absolument. Juste, c'est l'opinion de Staline après 1934.
Oui, c'est ça.
C'est
ça.
C'est pas son opinion en 1933. En janvier 1933 en particulier. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que Guérin va faire d'ailleurs un autre livre qui est aussi intéressant que celui-là, qui s'appelle Fascisme et Grand Capital. Dans lequel il va publier à chaud, hein, ici il consacre à peu près, le bouquin est publié en 36 chez Gallimard. Il va y travailler d'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien rappeler, c'est Simone Weil, la même là, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui va lui donner l'impulsion pour écrire Fascisme et Grand Capital, qui lui dit, parce qu'ils se connaissent, ils sont dans les mêmes réseaux, les mêmes milieux, notamment le milieu de la révolution prolétarienne, de la revue de Monat, et c'est Simone Weil qui encourage Daniel Guérin en lui disant il faudrait qu'on ait un travail théorique sur la nature du fascisme, quoi. Avec une comparaison internationale, avec ce qui s'est passé en Italie et ce qui s'est passé en Allemagne, et c'est suite donc à ces discussions avec Simone Weil et avec un certain nombre de communistes d'opposition allemands réfugiés à Paris après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est dans ce cadre-là que va naître chez Guérin l'idée de ce travail, donc qui va être publié en 36 et qui a été réédité jusqu'à aujourd'hui, puisque je me suis occupé aussi de la réédition de ce bouquin chez Libertalia il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. En 2015, et Guérin dit textuellement que la première lutte contre le fascisme, c'est la lutte contre le capitalisme. Et c'est parce qu'on va porter des coups au grand capital qu'on va. Donc ça n'a rien à voir avec l'espèce d'antifascisme consensuel prôné par Staline entre 1936 et le 23 août 1939, où Staline signera, enfin, Molotov et son ministre des Affaires étrangères et Ribbentrop signeront le pacte germano-soviétique.
Voilà, écoute, je pense qu'on va maintenant faire une pause musicale après cette longue partie sur les grèves de mai-juin 1936 et sur l'ouvrage de Simone Veil, Grève et joie pure. Et puis aussi, on a parlé du coup de Front populaire Révolution manquée de Daniel Guérin. Et on va faire une dernière partie plus courte consacrée à la contre-offensive patronale et la situation politique jusque novembre 1938. Qui est un peu la fin vraiment de cette période d'effervescence ouvrière et qui va aboutir au désarmement complet du prolétariat face à la guerre qui s'annonce et qui sera déclenchée en septembre 1939.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui gourba nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine.
D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance.
C'est nous tous qui produisons tout et nous vivons dans l'indigence.
Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
L'État nous écrase d'impôts, il faut payer ses juges, sa flicaille. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille.
Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la politique.
Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique.
Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie.
Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre.
Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire.
Église,
chaises, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, état, cœur fraternel, nous réaliserons.